Je suis ravi d'accueillir ce soir Amandine Atalaya, qui est là. Bonsoir Amandine. Je rappelle que vous avez, au-delà d'être journaliste politique ici, été correspondante aux États-Unis. Je salue Grégory Philips, qui vient d'arriver également. Je rappelle que, au-delà d'être le patron du service reportage de BFM TV, vous avez aussi été correspondant aux États-Unis pour Radio France pendant des années. On va aller tout de suite aux États-Unis, justement, Washington, en direct pour aller prendre la température avec vous, Antoine Hollard, correspondant de BFM TV. Antoine, les Américains sont en train, eux aussi, d'attendre. On commence à arriver dans les soirées électorales américaines pour attendre les résultats.
Oui. Oui, exactement. En fait, je me trouve ici dans un bar. Alors, c'est pas une soirée électorale militante. C'est un bar classique, vous voyez, avec des grandes tables, une décoration et puis les lumières un peu roses. Mais dans le fond, regardez la télévision, c'est CNN. C'est la soirée électorale parce que les Américains, cette année, se passionnent pour les élections de mi-mandat et certains bars, eh bien, organisent une soirée électorale comme on organise une soirée un peu football. Alors, il n'y a pas encore grand monde parce que il est 17h seulement aux États-Unis, donc un peu tôt pour commencer à boire des bières. Mais il y en a quand même qui ont commencé. C'est le cas d'Alexandro qu'on va aller voir. Justement là-bas, il est venu avec ses amis poursuivre cette soirée électorale. Alexandro, hi. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un traducteur en studio, si c'est moi qui dois faire la traduction, vous allez me dire ça. Alexandro, hi. You voted today.
Yes.
Can I ask you for whom and what was the main topic for you? Vous avez voté aujourd'hui. Quelle était pour vous la principale?
So here in Washington, we're voting for the mayor. I voted for the incumbent mayor.
Moi, j'ai voté pour le maire en place. Mais la plupart d'entre nous sont concentrés sur le Sénat et la Chambre des représentants, et pour voir qui est-ce qui va être celui qui va prendre le contrôle.
What is the most important topic for this election?
Et quel était le sujet principal? Eh bien, pour moi, c'est qui va garder le contrôle au Congrès. Est-ce que ce sont les démocrates, est-ce que ce sont les républicains? Il y a tellement de candidats et tellement de différentes élections que il y a aussi le problème de la fraude, et notre démocratie est vraiment en équilibre en ce moment. Et comme a dit Joe Biden, oui, c'est l'enjeu de la démocratie, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme cela. Et il y a des questions comme l'avortement qui est une question essentielle, et il y a beaucoup d'autres questions très importantes qui, par exemple, l'économie, l'inflation. Il y a des sujets vraiment importants, mais cela dépend de tendances nationales qui ne se font pas sentir immédiatement en fonction des candidats.
Et Trump
prétend déjà que les élections sont truquées en Arizona. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, cela me préoccupe beaucoup. En Arizona, on a plein de candidats républicains qui prétendent qu'il y a de la fraude, mais ce n'est pas vrai. Et il y a des gens qui se présentent pour être gouverneur, et il y a le secrétaire d'État pour le Sénat, et eux aussi prétendent que l'élection précédente était truquée. Mais il a été prouvé que ce n'était pas vrai, et c'est vraiment grave, parce que si il prennent le pouvoir, les élections suivantes pourraient être tout à fait faussées. Et vous pensez qu'il y a un risque de violence? Et vous souvenez quand le Capitole? Non, cela me préoccupe un peu moins, parce que je crois qu'en général, nous savons ce qui se passe. On comprend pas mal la situation, on en discute. On sait à peu près qui sont les fauteurs de violence. C'est plutôt les politiciens et leur pouvoir qui m'inquiètent davantage. Est-ce que vous avez l'impression que cette année, il y a une polarisation énorme et que c'est compliqué de coopérer les démocrates et les républicains? Vous pensez qu'ils pourront coopérer? Oui, je crois que c'est un vrai problème. Comme on le disait dans les années passées, autrefois, les deux partis arrivaient à s'entendre, ils trouvaient des compromis. C'était important de les trouver. Et maintenant, ils sont chacun de leur côté et ils veulent être les plus forts. Ils présentent le côté opposé comme étant démoniaque, et c'est très difficile parce qu'on va vers l'impasse.
Voilà, vous voyez les électeurs démocrates qui attendent avec une forme d'inquiétude ces résultats. C'est la démocratie qui est en jeu ce soir, disent-ils.
Merci à vous, Antoine Delard, en direct de Washington. Il est 5:00. Nous sommes en direct et à 5:00, les premiers bureaux de vote commencent à fermer du côté du Kentucky, du côté de l'Indiana. Et on est ensemble donc pour cette soirée américaine. On dépouille d'ailleurs aussi, là c'est du côté de Denver dans le Colorado. C'était pour les votes par anticipation, si je puis dire. Là-bas, le dépouillement a commencé. Philippe Corbet, on vous retrouve en direct après Antoine Delard. Vous êtes vous aussi à Washington. Philippe, ça va être l'un des thèmes, et c'est ce que l'on entendait à l'instant avec Antoine Delard, de cette Amérique absolument divisée, irréconciliable, qui ne se parle plus. J'ai l'impression qu'on entendait déjà d'ailleurs ça pendant la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression que le fossé entre démocrates et républicains s'est encore aggravé ?
J'ai envie d'être optimiste. Moi, j'ai couvert toute l'ascension de Trump vers le pouvoir, ses 4 années au pouvoir, l'élection de 2020. Et j'ai fait un ensemble de sujets sur, je ne sais pas combien d'interviews, autour de ce thème-là, autour des deux Amériques qui ne se parlent plus, qui se regardent face à face, qui n'arrivent plus à trouver, comme on dit ici, du common ground, c'est-à-dire un point des points d'appui communs. Et moi, j'ai envie d'être optimiste parce qu'au bout du compte, on a tendance à voir les éléments les plus brillants ou ce qui nous frappe au regard. C'est-à-dire les Trumpistes qui vont désigner du doigt, pointer du doigt les démocrates qui vont dire qu'au fond que tous les Trumpistes sont forcément des extrémistes. Et la plupart des Américains ne sont pas dans un extrême ou dans un autre, ne sont pas dans une situation polarisée à ce point. La plupart des Américains ont une épouse, un mari, un frère, un fils, un cousin, un voisin de travail, un collègue de football qui vote pour l'autre parti. Et la plupart des Américains partagent plus qu'ils ne... comment dire, il y a plus de choses qui rassemblent les Américains que des choses qui les divisent. Ceci étant dit, vous avez effectivement des pôles plus constitués qu'avant, vous avez des gens qui détestent plus l'autre camp qu'avant, et ça a des répercussions aussi sur la situation politique. Mais là où je pense qu'il faut être optimiste, c'est qu'il ne faut pas totalement rentrer dans le jeu que veulent sur lequel veut nous embarquer par exemple Donald Trump. Non, tous les républicains ne contestent pas l'élection de 2020. Non, tous les républicains ne pensent pas que Donald Trump est le seul capable de reprendre la Maison Blanche en 2024. Il faut faire attention à ne pas généraliser de ce point de vue-là. Et par exemple aujourd'hui, moi j'ai croisé des républicains qui ont voté pour Trump en 2020 mais qui ne souhaitent pas qu'il soit candidat en 2024. J'ai croisé aussi des démocrates qui pensent que les démocrates ont trop parlé de démocratie entre guillemets dans cette élection et pas assez d'inflation. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de nuances que ce qu'on peut imaginer. Donc il faut faire attention à ne pas rentrer trop dans la caricature. Oui, l'Amérique est polarisée. Oui, c'est plus difficile de s'entendre qu'avant. Mais non, tout n'est pas perdu. En tout cas, il ne faut pas résumer la situation uniquement en regardant les partis les plus brillantes, en tout cas les partis qui semblent les plus radicalisés.
Parmi les images, merci Philippe Corbet, parmi les images qui clignotent ce soir, il y a évidemment celle de Donald Trump. On va revenir sur Donald Trump dans une seconde. Simplement, Amandine Atalaya, on a ces informations données ce soir par CNN qui a interrogé les électeurs sur leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils sont allés voter. Et on a une Amérique divisée. D'un côté, on a les républicains qui quasiment à majorité, autour de 50%, disent on est allé voter en ayant l'inflation en tête. Et c'est ça qui a motivé notre vote pour les républicains. De l'autre côté, on a des démocrates qui à 44% disent ce soir on est allé voter pour défendre le droit à l'avortement. On a ces deux Amériques-là dans leur préoccupation.
Oui, je rejoins Philippe sur le fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance, vu de France, à caricaturer un peu ce pays. Et il est vrai que lors de la dernière élection, par exemple, on s'était beaucoup concentré aussi sur est-ce que les milices, par exemple, allaient finir par intervenir ? Est-ce qu'il y aurait des violences ? Et on exagère parfois un peu le niveau de la violence dans ce pays. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on le constate quand on fait des reportages, c'est un pays qui est extrêmement divisé d'une part, et où malgré tout, c'est très impressionnant pour nous Français, beaucoup, beaucoup d'Américains, près de 30% d'Américains pensent que Joe Biden a gagné cette élection parce qu'il y a eu de la fraude. Enfin, vu de notre état d'esprit, dans la mesure où il n'y a aucune preuve concrète, c'est pour nous parfaitement incompréhensible. Après, sur les thèmes de cette élection, oui, ce qui est écrasant, en effet, c'est l'inflation, c'est le coût de la vie chère, et ça, Joe Biden est passé à côté. Parce que Joe Biden a relativisé, parce qu'il a essayé de trouver des boucs émissaires, parce qu'il a minimisé le poids de son administration dans ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'il a cru, en fait, qu'en mettant en avant des thèmes comme l'avortement, il allait avoir un renversement et que ça allait suffire. Mais de toute évidence, aujourd'hui, non, ça n'a pas suffi.
Pauline, je te laisse la parole, pardon, mais juste une chose, Pauline. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans.
C'est vrai, on fête nos 2 ans quasiment ce soir. C'est vrai, jour pour jour.
On s'est rencontrés professionnellement il y a 2 ans à Washington au moment de cette élection. Et à l'époque, je me souviens des conversations qu'on avait à l'antenne, où on parlait de cette Amérique qui ne se parlait pas, de cette Amérique divisée comme jamais, de ces familles qui étaient complètement déchirées, où l'oncle ne parle plus au cousin, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que ça s'est aggravé ? Est-ce que cette année,
moi,
on part plus loin ?
Moi, c'est vrai que je ne suis pas tellement... je ne suis pas aussi optimiste que Philippe, mais il est sur place en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai trouvé que pendant... depuis qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, il y a eu cette période du Covid. Mmh. Et a priori, la période du Covid, ça aurait pu être un moment, tout simplement, où tout le monde souffre de la même manière et où, voilà, on est frappé par ce même mal. Mais cette période du Covid, ça a vraiment été vécu de manière complètement différente. Et j'ai l'impression que ça a aggravé encore plus les tensions qu'il y a eu. Mmh. On a vu évidemment du côté des Républicains, mais de manière phénoménale, refuser de porter le masque, à tel point qu'en rue, quand on se baladait en rue, si j'enlevais le masque, je voyais des gens parfois me regarder en se demandant, mais attends, est-ce qu'elle est républicaine ? Elle aussi, c'était pas une question où elle va me contaminer, est-ce qu'elle est républicaine ou pas ? La question du vaccin également. Et autour du Covid aussi, il y a eu dans les écoles, parce que les écoles sont restées fermées extrêmement longtemps. Grégory Philips s'en souvient également, puisqu'on s'est rencontrés aussi à Washington.
Un an et demi de garde à la maison.
Exactement. Voilà.
Ça laisse des souvenirs.
Voilà, et là, c'était quand même assez surprenant de voir des électeurs démocrates qui trouvaient ça tout à fait normal. Finalement, il faut fermer les écoles. Alors, pas partout, petit à petit, c'est devenu un peu plus difficile. Et au contraire, du côté républicain, ils s'en sont saisis. Ensuite, les républicains, je crois que là, ils ont eu une très bonne ouverture pour ensuite, dans la campagne, la question des écoles, ça a été un porte-voix pour ces conseils d'école, au départ uniquement sur la gestion du Covid. Et ensuite, ça a amené toute une série de thématiques sur l'éducation qui ont beaucoup porté pendant ces midterms.
Grégory.
Et à la fois, il y a 2 ans, évidemment, tout le monde se souvient du Capitole, on y était, des assauts menés contre la démocratie, et puis finalement, la démocratie américaine a tenu. Enfin, on se souvient quand même de l'inquiétude énorme face aux milices d'extrême droite, face aux débordements violents, face à ce qui s'est passé quand même dans le cœur de la démocratie américaine, cette attaque du 6 janvier. Et puis, finalement, les résultats ont été validés et Joe Biden a été investi. Et le bilan de tout ça, de ces 4 années de trumpisme, c'était de dire, finalement, les pare-feux ont tenu. Et quand le 6 janvier, dans l'après-midi, on a pu se dire, mais on va vers quoi ? Vers un coup d'État ? Finalement, ça a tenu. Et 2 ans après, on voit qu'il y a déjà des recours, on voit déjà qu'il y a quasiment des contestations dans plusieurs États, mais le système fait que normalement, on ira jusqu'au bout de ces élections sans trop de difficultés, j'espère sans trop de violence.
J'ai d'autres nouvelles de Trump dans une seconde.
Je voulais juste ajouter qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que les États-Unis sont un bipartisme. J'allais dire hard. C'est-à-dire qu'au fond, non seulement on est républicain ou démocrate, mais on peut être en plus enregistré des républicains ou démocrates, voter pour l'un ou pour l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que qui détient l'un des deux partis ou les deux partis est très important. Alors, il y a 2 choses qui sont absolument pas en phase avec les États-Unis, le quotidien des Américains. C'est d'une part l'âge du capitaine. C'est-à-dire, ces 2 hommes qui dirigent le pays, on le voit là, sont des vieux hommes. Ils ont 80 et 77 ans. Et Nancy Pelosi est pas loin de 82 ans. Donc il y a une espèce de gang d'octogénaires à la
Nancy
tête des
Pelosi
États-Unis.
Nancy Pelosi,
de
la Chambre
mais je le dis très sérieusement, parce que c'est pas le seul. Il y a aussi, du côté républicain, celui qui gérait la minorité républicaine au Sénat, qui sont absolument, qui savent absolument gérer qui ont entre les mains l'ensemble du pouvoir et qui ne ressemblent pas du tout à l'Amérique jeune, plutôt diverse culturellement et aussi ethniquement, qui est en train de prendre place. Premier problème. Et deuxième problème, c'est vrai qu'il y a tendance dans chacun de ces partis à être caricaturé par ces extrêmes et à être pris en otage par ces extrêmes. On avait parlé à l'époque de Bush du Tea Party, puis c'est devenu maintenant le Trumpisme qui visiblement fait gagner et perdre des élections, ne serait-ce que sur son nom, alors que par exemple sur l'histoire de l'avortement, on sait que tout ce que la majorité des Américains pensent que l'avortement doit être respecté, que le droit à l'avortement, mais pas un peu des Américains, 65%, les 2/3 des Américains le pensent. De la même manière, côté démocrate, il y a aussi un problème avec la gauche, la gauche-gauche démocrate, où la division ethniciste, on va dire, par minorité du Parti démocrate, qui a fait perdre Hillary Clinton, et qui aujourd'hui risque de faire perdre une seconde fois Joe Biden.
Ulysse.
Il y a à la fois une chose rassurante, c'est que les Américains votent massivement. Presque plus que les Français pour la présidentielle. Là, ils sont déjà, avant même que le scrutin n'ait commencé, ils étaient 43 millions à avoir voté en avance. Oui. Et aujourd'hui, il y a des queues partout pour aller voter. Donc la démocratie l'emporte, c'est très juste ce qui a été dit, c'est-à-dire que les fondamentaux tiennent. Mais quand même, la démocratie a tremblé sur ses bases le 6 janvier, c'était effectivement une forme de coup d'État en puissance. Et puis surtout, depuis, il y a toujours eu une multiplication des agressions contre les hommes politiques. Le dernier en date, c'était l'agression tentée et échouée contre Nancy Pelosi, qui était à Washington, alors que
contre son mari,
résidence, son mari a été agressé en Californie. Et ça, évidemment, créer un choc dans la classe politique parce que ce type d'attaque s'est multiplié. On parle de plus de 1000 tentatives d'agression ou d'agression contre des hommes et des femmes politiques, quelle que soit leur couleur politique, au cours des derniers mois. Donc, il y a une vraie inquiétude aux États-Unis, ça personne ne peut le nier. La question ce soir est simple, c'est est-ce que les Républicains remportent une victoire absolument sans conteste, c'est-à-dire un tsunami républicain à la Chambre, c'est-à-dire que c'est la fin effectivement de la présidence Biden, on va tuer toutes ces réformes jusqu'à la fin, ou bien c'est une vague rouge, puisque les Républicains sont rouges aux États-Unis, une vague rouge qui sera quand même politiquement très dure à supporter pour les démocrates, mais qui sera aussi l'obligation pour eux d'un rebond et finalement d'aller contre cette vague pour mieux essayer de gagner la présidentielle de 2024. Et il faut se souvenir que dans toutes les élections de mi-terme, en général, le président en poste perd et ça n'empêche pas de gagner après. Et puis, il peut y avoir l'hypothèse d'une courte victoire républicaine qui serait un avertissement pour tout le monde. Pour les démocrates, parce que finalement, ils ont fait une mauvaise campagne, ils n'ont pas vu venir l'inflation ou ils ne voulaient pas trop la voir venir.
Oui, ils voulaient pas la voir venir.
Voilà, c'était un mauvais bilan pour Biden. D'ailleurs, Biden, on a envie d'être à ses côtés parce qu'il a fait des grandes choses pour l'Amérique depuis deux ans. Il a fait deux grandes lois sur le Covid pour protéger l'Amérique contre les conséquences du Covid. 1900 milliards de dollars, c'est considérable. Une loi pour les infrastructures, les routes cabossées, les ponts qui ne sont pas en état, 1200 milliards de dollars. Et on lui en tient pas, finalement, on lui donne pas satisfait parce que il faudra du temps pour que ces mesures arrivent chez l'Américain. Et ensuite, pour les Républicains, si c'est une courte victoire, eh bien, ça voudra dire quand même que les Américains ne veulent pas donner, je dirais, tous les moyens à Donald Trump d'être réélu. Et c'est ça l'enjeu de l'élection.
Et c'est ça que j'allais rajouter. Donc, à quel point la victoire des Républicains sera importante ou pas, et puis à quel point ce sera une victoire pour Donald Trump. Alors, il s'arrangera peut-être pour analyser les résultats, mais on a évoqué les différents enjeux de ce scrutin, les États clés, notamment la Pennsylvanie, la Géorgie. Ça aurait pu être des États qui auraient été remportés plus facilement par d'autres candidats.
On avait ces images dans l'Ohio à l'instant.
Exactement.
En direct.
Là, ouais. Dans l'Ohio, là, on a vu J.D. Vance, qui est aussi un bébé Trump, qui a été mis en place par Donald Trump. Et ça, ce sera intéressant de regarder si tous ces candidats, s'ils passent de justesse, une victoire, c'est une victoire. Mais si certains d'entre eux ne gagnent pas, est-ce que si on avait mis à la place des Républicains un peu plus traditionnels, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile ou est-ce que la victoire n'aurait pas été plus grande? Alors là, on rentre dans de l'analyse un peu plus pointue, mais du côté du Parti Républicain, je pense qu'ils ne manqueront pas de le faire parce que si ce ne sont pas les candidats de Donald Trump qui l'emportent ou s'ils l'emportent très difficilement, là, ça peut donner des ailes à quelqu'un comme Ron DeSantis, par exemple.
Vous avez ces images à Cleveland, donc Ohio, en direct. On continue de voter, évidemment. Je vous le disais qu'on commence à fermer les bureaux de vote dans certains États et on attend des premiers résultats dans les minutes qui viennent maintenant. Ce sont les images en direct. Et une autre image que je voulais montrer, c'était tout à l'heure du côté de la Floride, Donald Trump qui est allé voter en compagnie de Melania. Et on va revenir aussi sur Melania parce que cette image, elle est très importante. Trump qui disait à quel point cette nuit qui s'annonce était une nuit importante pour les Républicains, pour lui aussi, et qui à nouveau donne rendez-vous le 15, mardi prochain, donc, où il pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024. Écoutez Donald Trump.
Ça va être une élection très importante selon moi. J'espère que l'issue sera bonne, et vous savez de quelle issue je parle. Je pense que la priorité numéro un sera la criminalité. Il s'agira aussi de maintenir vos impôts à un niveau bas. Nous avons accordé la plus grande réduction d'impôts de l'histoire. Vous savez, les démocrates veulent augmenter tout ça. Nous voulons garder les impôts bas. Je pense aussi qu'il faut fermer la frontière et le faire rapidement. Il y a des millions et des millions de personnes qui entrent dans notre pays et notre pays est en train d'être détruit. Donc il faut lutter contre la criminalité. Vous devez vous battre pour que nos impôts restent bas et vous devez faire quelque chose pour la frontière.
Avez-vous prévu de vous représenter ?
Je pense que mardi risque d'être un jour très excitant pour beaucoup d'entre vous. J'ai hâte de vous voir à Mar-a-Lago.
Voilà, Mar-a-Lago, ce sera mardi prochain. Hélène Kuntz, les dernières nouvelles de Trump ce soir. Alors, il y a deux choses. Il commence à dire qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de la Pennsylvanie, etc. Parce qu'il y a certaines machines à voter qui ne fonctionnent pas correctement. Qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. Sous-entendu, les fraudes recommencent. Point d'interrogation. C'est ce que dit Trump. Puis, il y a autre chose.
Il ne croit toujours pas les médias américains, il ne croit toujours pas les instituts de sondage. Donc que fait Trump ? Il vient d'envoyer un message assez supporter où il explique que c'est simple. Il lance ses propres sondages sortis des urnes et il va publier ses propres sondages sortis des urnes. Il y a toujours cette défiance vis-à-vis du système médiatique, vis-à-vis du système politique de la part de Donald Trump ce soir.
Il me semble que tout à l'heure, on n'a pas donné l'hypothèse où les démocrates gagnent. Pardonnez-moi.
Oui, c'est vrai.
Il y a aussi la possibilité qu'on maintient le Sénat à 50-50 et que, de justesse, on pourrait imaginer de maintenir la House, hein, donc pardonnez-moi, il y avait
ça, c'est possible,
hypothèses.
Absolument.
Oui, c'est pas peut-être une énorme vague bleue, mais il y a des instituts de sondage qui se sont tellement trompés, qui étaient tellement à côté.
Donc vous dites que Trump a raison de lancer ses propres sondages
mais
à lui.
Il n'a qu'à faire, c'est comme son Twitter à lui, il n'a qu'à faire. Oui. Pourquoi pas, ça rajoute un petit peu, il n'a qu'à dire. Tout à l'heure, j'étais avec mon compatriote qui est républicain américain. Ouais. Et figurez-vous, on avait les mêmes préoccupations. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ces derniers jours? Il dit, j'œuvrais pour que mes compatriotes votent. Et je dis, tiens, mais moi aussi. Donc, on est vraiment sur les mêmes préoccupations. On a quand même à cœur de participer dans le système. Donc, je suis quand même, comme vous, assez optimiste sur le niveau de participation. On a à cœur que notre système fonctionne.
Et on a quelques indices où, dans certains États, visiblement, le taux de participation est déjà assez élevé.
Ah oui, il le sera. On le sait beaucoup. On le sait aux États-Unis pour plein de raisons. Pas seulement parce que les gens, parce qu'il y a des sondages qui sont effectués et qui, pour le coup, par État, sont plutôt assez fiables. On le sait tout simplement parce qu'on sait au nombre de personnes qui ont déjà voté. On parlait de 43 millions, c'est un chiffre extrêmement important. Et donc, on peut tirer en avance la conclusion qu'il y aura environ 60% d'électeurs de participation, ce qui est énorme. Il y a deux hypothèses qui pourraient être un peu favorables à Biden. La première serait effectivement qu'il remporte les deux élections. La deuxième, c'est qu'il remporte, mais ça paraît assez improbable. Il a même dit lui-même que ce serait compliqué pour la Chambre des représentants. Ne serait-ce que parce qu'il est le président sortant, en exercice, et que ni Donald Trump ni Obama n'avaient réussi, au moment des midterms, à retenir la Chambre des représentants. Puis la deuxième chose, qui pourrait par contre retenir effectivement le Sénat, en tout cas le fameux toss-up, c'est-à-dire le fameux 50-50 qui permettrait à sa vice-présidente de départager les débats, c'est possible. D'abord parce que les sénateurs, les démocrates ont moins de sénateurs à faire élire cette fois-ci que les républicains pour l'obtenir.
Parce que là, on renouvelle deux tiers du Sénat.
Oui,
un tiers du Sénat.
Sauf que les démocrates ont déjà 36 sénateurs qui, eux, ne sont pas dans Absolument. L'élection. Donc, ils ont moins de chemin à parcourir pour arriver à 50 que les républicains qui n'ont que 29 ou 26, je crois, des sénateurs qui ne participent pas à l'élection. Et il y a une autre possibilité qui est, maintenant, j'espère qu'il a la ressource pour, parce qu'en fait, Joe Biden a toujours été négociateur en chef. C'est à lui que Barack Obama avait confié notamment la réforme d'Obamacare et il l'avait fait passer d'une voix, enfin de quelques voix, à peine. Alors qu'une grande partie de la Chambre des représentants, comme je crois au Sénat, était très opposée. Oui. Donc il a su négocier, il a su faire du bipartisanisme, il a su faire de la politique américaine comme personne n'en fait depuis lui. Et donc, y compris avec une Chambre pas trop républicaine ou avec un Sénat pas trop républicain, il pourrait exercer ses talents de négociateur.
Ils ont quand même promis de lui faire vivre l'enfer, les républicains.
Alors voilà,
on va suivre ça.
Mais ça dépendra de cette soirée.
Avant l'enfer, et à la demande de Grégory Phillips, la page People de cette nuit américaine, vraiment à votre demande, Grégory, il faudrait qu'on revienne sur les images de Donald Trump
le couple.
Avec Mélania. Ben oui, le couple, parce que on les a quittés, ces deux-là, j'allais dire, lors de leur départ à la Maison-Blanche, où...
C'était un peu froidoche.
C'était un peu froid, effectivement. Le 6 janvier était passé par là, là-dessous sur le Capitole, etc., était passé par là. Et puis finalement, deux ans après, Mélania est toujours là.
Alors, je dois vous avouer que j'ai assez peu suivi la vie du couple ces deux dernières années. Et je ne sais pas si Mélania était visible à Mar-a-Lago régulièrement ou pas. En tout cas, là, elle est avec le président et à ses côtés. Elle n'a pas pris la parole, mais elle est là, en tout cas, pour montrer que le couple existe encore. Et je n'ai pas les...
Ils font chambre à part.
Alors, bah, il faut une villa.
Attendez, Élise Gosset.
La résidence est grande.
Oui, mais bon.
Mais selon les sources de la presse américaine, effectivement, ils font chambre à part.
Ben oui,
mais ils ont un dressing commun.
L'image et l'important, c'est que leur image s'affiche ensemble. Mais que fait-elle depuis qu'elle a quitté la Maison Blanche? Elle s'occupe d'abord de son fils, et ça, c'est le plus important. Elle est très discrète, et sa passion, ce sont les NFT.
Ah oui.
La blockchain.
Oui, ça,
c'est-à-dire que, bon, elle est conseillée par des amis de son mari qui...
elle investit dans ses nouvelles œuvres d'art, d'une certaine manière.
Des œuvres d'art virtuelles.
Oui.
Et ça, ça la passionne. Et c'est ce que fait Mélania depuis qu'elle a quitté la Maison Blanche. Mais effectivement, elle est toujours aux côtés de son mari.
Sauf qu'elle
tient à préserver cette image du couple qui va l'aider s'il se présente.
Allez, parce que Philippe Corbet aussi veut intervenir, je le vois. Il veut intervenir aussi sur Mélania. Mais allez-y, Anthony Bélanger.
Il y a un... pas sur Mélania, je voulais intervenir sur Jill Biden.
Ah non, attendez. Alors, Philippe, ne faites pas long de la tête, vous voulez vous aussi intervenir sur Mélania. Non mais sur l'importance, parce que c'est l'une des images de la journée qu'a voulu renvoyer Trump aussi. C'est un couple, c'est tarte à la crème de le dire, mais c'est un couple qu'on envoie aussi à la Maison Blanche. Le couple est toujours là.
Oui, mais vous avez raison de dire, et je crois que c'est Grégory Phillips qui le disait, elle a été extrêmement discrète depuis 2 ans. Elle a été, on sait qu'ils vivent maintenant quasiment l'essentiel de l'année à Mar-a-Lago, sauf l'été quand il fait beaucoup trop chaud dans le sud de la Floride et où il déménage dans le New Jersey, dans une autre de ses propriétés. Mais c'est vrai qu'elle est à Mar-a-Lago, on la voit relativement peu. Et comme le disait Ulysse, elle a des projets personnels sur les NFT qui intéressent finalement assez peu son mari. Et le fait qu'ils s'affichent aujourd'hui ensemble, c'était un message politique. Faut vous mettre dans la tête de Donald Trump. Donald Trump, aujourd'hui, il sait que la campagne pour 2024 commence ce soir. En réalité, elle a déjà un peu commencé pour lui. Il sait que son principal rival dans le camp républicain s'appelle Ron DeSantis. Ron DeSantis, c'est le gouverneur de Floride, plus jeune que lui, plus, entre guillemets, vaillant que lui, en tout cas plus moderne que lui. Et donc, il est déjà aussi dans cette compétition-là. Et d'ailleurs, il s'est rendu à ce bureau de vote en Floride. Il a... d'une certaine manière, il s'est moqué de Ron DeSantis et il s'est moqué dans la foulée de la femme de Ron DeSantis. Donc, il reprend finalement les techniques qu'il avait utilisées dans la primaire républicaine en 2016, non seulement se moquer de ses adversaires, mais se moquer des épouses de ses adversaires. Et on avait vu que dans la campagne en 2016, ça avait été relativement efficace. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là qu'il faut comprendre cette séquence aujourd'hui du bureau de vote près de Mar-a-Lago.
Grégory Phillips, vous voulez en rajouter ? Allez-y.
En revanche, personnel des choses, pour regarder Trump à distance depuis quelques jours et dans ses derniers meetings, il a 76 ans, il est quand même hyper en forme.
Oui. Enfin, c'est absolument passionnant.
Quand vous faites la comparaison entre Biden qui a 4
ans, on va la faire dans une seconde.
Et c'est Donald très Trump, il apparaît la même cravate rouge, la même force physique, on le voit.
Enfin, c'est tout à fait impressionnant.
Quand il s'adresse à la presse ou à ses supporters, c'est le Trump quasiment d'il y a 6 ans.
Ouais, mais qui avait tourné à vide complètement pendant la campagne présidentielle parce qu'il avait, je ne sais pas si vous aviez le même sentiment, mais c'est-à-dire qu'il avait l'énergie, il faisait ses pics, mais il n'y avait plus le Trump de 2016 qui était si brillant, qui arrivait à faire des blagues, qui retournait les foules. Enfin, il n'avait rien à dire. Pendant la dernière campagne, il répétait sans cesse le mur et puis ses vieilles recettes éculées, mais on avait l'impression qu'il avait déjà, que tout était usé et qu'il n'arrivait pas à se renouveler. Donc là, c'est un peu plus facile parce qu'il est dans la position de pouvoir critiquer aujourd'hui Joe Biden. Donc forcément, ça le fait renaître. Et puis, on l'a moins vu ces 2 dernières années. Donc, il y a à nouveau une petite curiosité qui surgit. Mais franchement, on peut se demander s'il revenait sur le devant de la scène. Trump, aujourd'hui, il a quoi à apporter qu'il n'ait pas déjà dit aux Américains?
Mais Trump n'est jamais meilleur quand il est l'outsider. Quand il est en meeting, d'une part, parce qu'il est entouré de gens qu'il adore, et quand il était outsider. Quand il était président et qu'il défendait son président, il suffisait qu'il regarde les sondages pour savoir qu'il n'était pas le favori. Enfin, il était le favori puisqu'il était le président sortant, mais pas le favori dans les sondages. Cette élection n'avait pas d'intérêt pour lui. En plus, la séquence était mauvaise pour lui. On sortait vraiment pour le coup de la période Covid, qu'il avait plus ou moins bien géré. Enfin, en partie d'ailleurs sur les vaccins, extrêmement bien géré. Il faut quand même lui reconnaître ça, mais en partie sur l'explication de ce qui arrive aux États-Unis au début, en tout cas comme tous les leaders populistes en Europe, en Amérique latine ou aux États-Unis, a plutôt mal géré. Et donc en fait, c'était pas son élection. Son élection est à venir, c'est celle-là. Et quand je voulais vous parler de Jill Biden, c'est vraiment un combat de femmes.
Mais on va le faire dans un instant parce qu'on parlera aussi de Joe Biden, mais avant ça, Philippe Corbet lève la main à distance depuis Washington, Philippe.
Non, parce qu'on évoquait tout à l'heure ce grand sondage, cette grande enquête que vient de publier CNN, donc qui a été faite auprès d'électeurs qui votent aujourd'hui. Non pas des sondages sur pour qui ils vont voter, mais quels sont les thèmes qu'ils ont en tête aujourd'hui en votant. Et il y a quelque chose de très intéressant concernant Donald Trump. Seulement, et je insiste bien sur le seulement 16% des électeurs interrogés aujourd'hui disent qu'ils se sont déplacés en ayant en tête la volonté d'encourager Donald Trump. Et 28% la volonté de faire barrage ou de barrer la route à Donald Trump. Entre guillemets, l'aspect mobilisateur de Donald Trump est moins fort que l'aspect repoussoir de Donald Trump. Et quand on regarde cette étude, si vous êtes un républicain, vous regardez cette étude, vous vous dites une chose. Donald Trump est prenable, il n'est pas évident, il n'est pas incontournable comme candidat républicain en 2024, en tout cas dans la compétition interne. Et d'une certaine manière, ce que essaye de faire Donald Trump ces derniers jours, ces dernières heures, hier soir encore en annonçant, en laissant entendre qu'il sera candidat dans quelques jours, c'est d'une certaine manière essayer d'accaparer, de tirer à lui la couverture de la victoire probable des républicains ce soir. Il essaye de s'imposer sur la photo, même si en fait, quand on regarde dans le détail, il n'est pas aussi certain, et ça m'a frappé aujourd'hui et ces derniers jours en parlant avec des républicains qui aiment Donald Trump, qui ont voté pour lui, qui pensent qu'il va peut-être d'ailleurs gagner en 2020. Certains d'entre eux, peut-être minoritaires, mais certains d'entre eux pensent qu'il n'est pas le meilleur candidat pour gagner en 2024 et pensent qu'en fait, ce n'est pas lui qui devrait être candidat en 2024. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'essaye de faire Donald Trump ces derniers jours. Il essaye d'apparaître comme le candidat incontournable. Le fait qu'il annonce sa candidature 2 ans avant le scrutin, c'est plutôt un signe de faiblesse qu'un signe de force. Il n'a pas confiance, il n'est pas certain d'être celui qui s'imposera naturellement au sein du Parti républicain pour être candidat en 2024.
Vous parliez, Philippe, de la vaillance de Donald Trump. On va donc parler de Joe Biden, évidemment. Ben oui, il faut voir ce qui se passe en face. Bien évidemment, Joe Biden... On va en parler, on a d'abord des images à vous montrer, parce que c'est des images que les républicains notamment se passent en boucle, notamment sur les réseaux sociaux, pour montrer à quel point Biden est âgé, 80 ans, et à quel point il fait ses presque 80 ans. Regardez ces images.
It is noteworthy that the percentage of women who registered to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line.
I'll always honor the bravery and selflessness of the and sacrifices of the Americans who serve. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer.
Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here.
Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. I mean, excuse me, the war in Ukraine. And think of Iraq because that's where my son died.
Voilà, Biden qui confond Irak et Ukraine, qui appelle une sénatrice qui, dans la salle, en réalité, est déjà morte, et alors qu'il avait lui-même rendu hommage à cette sénatrice qui était décédée.
Et son fils n'est pas mort en Irak.
Et son fils n'est pas mort en Irak, c'est tout ça qui est très important.
Absolument. Grégory Phillips, les républicains, notamment, insistent là-dessus, mais est-ce que les démocrates s'inquiètent de ça aussi?
Écoutez, moi j'ai rencontré une fois Joe Biden en personne, c'était pendant la primaire démocrate avant la présidentielle, et c'était certes déjà un monsieur un peu âgé, mais assez vaillant, très sympathique, il faut dire, dans le contact, vraiment il sait faire ça, quoi. Enfin, il a fait ça toute sa carrière, serrer des mains, s'adresser aux gens, comme si vous étiez pendant quelques minutes la personne la plus importante à ses yeux, donc... Il vient vraiment de là, et d'un homme politique qui sait faire ça. Je dois dire que vu de France depuis quelques mois et sans se faire intoxiquer par la propagande républicaine, il y a quand même des scènes qui sont étonnantes, quoi. Où on se demande s'il y a quand même un capitaine dans le navire. On a vu aussi, enfin, il y a quelques jours, Kamala Harris qui le rattrape au bord d'une estrade parce que il s'avance. Visiblement, il sait pas trop où est-ce qu'il va dans un meeting et elle le rattrape par le bras parce qu'on a peur que le président dégringole, quoi. Donc, oui, je pense que quand même. L'âge du capitaine est un souci. Il aura 80 ans le 20 novembre, je crois. Et il laisse entendre qu'il pourrait se représenter en 2024. C'est quand même politiquement un choix et une décision qu'il annonce, ou en tout cas qui sous-entend qu'il est très dangereuse.
Et qui ne plaît pas beaucoup, y compris au sein du Parti démocrate. Et c'est ça qui change un peu, on va dire, ces dernières semaines ou ces derniers mois, où petit à petit, alors ça reste encore des sources anonymes, c'est pas des démocrates qui vont dire il est trop vieux, il faut qu'il se barre, mais on commence à lire de plus en plus souvent, selon tel responsable démocrate, il serait souhaitable qu'il ne soit pas candidat. Donc c'est effectivement parce qu'il est trop âgé, il sera trop âgé encore dans deux ans. Donc il y a ce discours au sein du Parti démocrate qui commence à être entendu.
Et Kamala Harris, beaucoup plus jeune, n'est pas du tout en orbite.
Vous voulez une autre source anonyme ce soir, qui est citée par nos confrères de CNN, qui disent un des conseillers de Biden insiste sur un point, c'est que les résultats de la nuit qui vient n'auront aucun impact sur la décision que prendra Biden pour 2024. J'ai entendu, on peut perdre ce soir, je peux tout quand même être candidat en 2024.
Oui, alors d'abord, d'une part, c'est une chose qu'on ne dit pas deux ans avant la fin de sa présidence, parce que c'est, on devient immédiatement, la course à la succession commence immédiatement.
Oui, de dire qu'on n'est pas candidat, vous voulez dire.
Voilà, qu'on n'est pas candidat. Bah, le problème avec Joe Biden, c'est qu'il l'a dit une fois qu'il serait candidat que pour un mandat.
Oui.
Il l'a dit une
c'était
fois.
C'était une promesse même de campagne.
C'était une promesse de campagne. Oui. Donc c'est un peu compliqué pour lui de revenir sur une promesse de campagne. Le vrai problème qu'il a, c'est pas tellement le fait qu'il a déjà promis une fois qu'il n'irait pas jusqu'au bout, parce que objectivement, il n'ira pas. Enfin, il ira jusqu'au bout, mais il n'ira pas plus loin. Il le sait, toute l'Amérique le sait. Le problème, c'est
pas
qu'il
plus loin que quoi ?
Pas plus loin que son premier mandat. Et qu'il avait, il pensait sérieusement mettre Madame Kamala Harris en orbite. Et
oui, mais moi, aujourd'hui, si on vous, je vous donne mais si on vous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas, d'autres solutions chez les démocrates.
Alors, il y en a quelques-unes tout de même. Mais le problème, c'est qu'il l'a systématique, il les a systématiques. Je pense à Madame Klobuchar, par exemple.
Oui, tout à fait.
Qui est la sénatrice du Minnesota, qui est une femme extrêmement brillante, qui a passé plusieurs étapes de la campagne présidentielle, qui a montré en plus qu'elle savait gagner une campagne, qui a montré qu'il a écarté pour deux raisons. Un, parce qu'elle n'est pas noire, elle est blanche, et qu'il avait passer un deal avec la communauté noire américaine, ça c'est un premier point.
Mais c'est tout ça. Il fallait le vote noir pour faire élire Joe Biden, et c'est pour ça qu'il a choisi Kamala Harris.
Cette manière un peu, alors excusez-moi, par ailleurs, cette manière pour les démocrates de compter sur le vote noir, comme
c'est ce qu'il a fait élire.
Non, mais ça marche.
C'est ce qu'il a fait élire.
Enfin, oui, c'est la vérité. De moins en moins.
C'est la réalité.
Non, il y a des sondages qui vont montrer que
au vote noir.
Mais peut-être.
Mais sûrement.
Et le deuxième problème de Mme Klobuchar, c'est qu'elle était meilleure que lui, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle était, elle l'aurait probablement éteint comme une bougie.
Donc, bon, elle n'a pas non plus réussi à l'emporter à la primaire.
Ce qui est vrai pour Joe Biden, c'est qu'il avait pour mission de rassembler les Américains.
C'est vrai.
C'était son principal objectif. Oui, et malheureusement, on voit qu'au bout de deux ans, il n'a pas réussi à le faire. Et c'est ça, finalement, son échec. Oui, mais... Sur la gouvernance de Joe Biden, on l'a dit tout à l'heure, il a réussi à faire passer des lois très importantes au Congrès. En négociant habilement avec les Républicains. Et on peut compter sur lui pour essayer de négocier habilement pour la suite, même s'il perd les élections ce soir. Mais ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est mettre fin à la division et aux fractures de l'Amérique. Et pour cet homme-là, qui est depuis 45 ans dans la vie politique américaine, qui a tout connu, je ne sais pas combien de présidents, mais enfin pratiquement tous depuis le XXe siècle, eh bien,
il
n'a pas
Carter.
Réussi finalement à recoller les morceaux de cette Amérique fracturée au cours de...
Je vous donne la parole à Hélène Kouz dans une seconde. Simplement, les informations qui avaient filtré aujourd'hui du côté de la Maison-Blanche, c'était de dire que Biden allait rester à la Maison-Blanche aujourd'hui, de manière discrète, dans son bureau, avec ses conseillers, pour suivre les résultats, etc. Mais qu'il respecterait notamment sa morning routine, son sport du matin,
oui.
Pour montrer comme ce président de bientôt 80 ans était toujours un sportif.
Oui, mais et justement, je suis toujours très étonnée quand les gens affirment que Donald Trump est en super forme, alors qu'il avoue, il ne fait aucun exercice, il
joue au golf.
De fast food.
Il est obèse.
Donc il est très bon sur des quelques secondes. Mais après, il s'essouffle. Non, mais on en a des preuves. Pardonnez-moi, il y a trop d'images pendant sa présidence où lui aussi il se faisait aider à descendre des marches où il n'a pas rien faire. Donc, pardonnez-moi, Monsieur Biden, il est fatigué parce que il travaille.
Mais c'est quand même
ça l'origine de son fatigue.
C'est quand même fou qu'on défende encore une fois un gang d'octogénaires, parce que on est en train de se demander s'il prend sa camomille le matin.
Le problème de cette élection, c'est que c'était déjà une élection par défaut la dernière fois aux États-Unis. Enfin, il y avait aucun enthousiasme dans la campagne. Il y avait aucun enthousiasme le soir de l'élection, enfin beaucoup moins que pour d'autres élections aux États-Unis.
Les Américains avaient autant voté que lors de la dernière élection.
Oui, mais par exemple, quand on était à Washington, c'était complètement atone. Alors parce que les gens aussi avaient peur.
Oui, Washington était barricadé à ce moment-là.
Du résultat des élections, mais franchement, Joe Biden n'a pas fait rêver les Américains lors de la dernière élection et pendant la campagne. C'est
il
juste
pas
que
il n'était
pas
là pour ça.
En revanche,
il a surpris.
Mais il y avait une forme de vide néanmoins, et le risque, c'est quand même, c'est pas complètement exclu aujourd'hui qu'on se retrouve avec les mêmes candidats, peut-être ça, en 2024, à nouveau Joe Biden et Donald Trump. Et ça fait d'ailleurs un peu penser à notre dernière élection en France, où il n'y a pas eu beaucoup non plus d'enthousiasme, où les thèmes ont été tous un peu écrasés par la guerre en Ukraine ici et là aux États-Unis, ils sont tous écrasés par l'inflation. Mais je veux dire, c'est un débat politique qui est atone, qui est un peu mourant, qui est compliqué. Et oui, Joe Biden a fait
pas mal de choses, il a fait passer des lois importantes, mais aujourd'hui, il n'en a pas le crédit.
Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden a pensé à un moment donné, et ça a failli marcher, vous évoquez justement les deux thématiques, et cette thématique de l'avortement, qui finalement avait donné un coup de fouet à cette campagne démocrate, et vraiment pendant tout l'été, depuis, cette décision de la Cour suprême, donc de revenir sur ce droit à l'avortement, il y a eu vraiment un engouement dans les sondages, une impression que quelque chose était en train de se passer. Alors on va voir maintenant, effectivement, c'est pas encore terminé, on va voir aujourd'hui, on voit que c'est très serré pour ces deux thématiques de campagne, l'inflation et l'avortement. Mais il avait finalement réussi, même si ce n'était peut-être pas le bon thème, à relancer une campagne à la fois sur la question de l'avortement et tout de même sur cette question de la démocratie, du maintien de la démocratie. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour l'emporter aujourd'hui, mais il y a eu des foules alors qu'on pensait que c'était fini il y a quelques mois.
Juste une petite chose pour dire simplement que Joe Biden il a quand même réussi à obtenir sur sa voix, sur son nom, un nombre de voix absolument considérable. Jamais aucun président américain n'avait rassemblé autant. Donc c'est pas seulement Donald Trump qui fait voter, c'est bien aussi lui. Enfin, en tout cas, c'est leur opposition et leur mise en scène. Maintenant, je doute qu'il puisse finir les deux années, surtout qu'en plus, si vous voulez, la presse de gauche américaine commence à se retourner contre lui. C'est pour la première fois, j'ai lu dans le journal.
Au bout de son mandat.
Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il puisse finir les deux années?
Il ira jusqu'au bout de son mandat, bien sûr. Non, mais c'est tout ce que je veux dire. C'est pour la première fois.
Non, mais c'est vrai qu'il y a les premiers articles dans la presse qui posent la question de l'âge.
Qui demandent, qui posent la question de l'âge et surtout qui disent, bon, c'est notamment le New York Times que tout le monde lit, le Washington Post, qui disent peut-être que ce serait, que le meilleur serait que Joe Biden et Kamala Harris se réfutent pour 2024. Et laisse la place à une nouvelle génération. Ces premiers édito-là.
Washington en direct, on y va. Antoine Delard, on vous retrouve, Antoine, puisque les Américains vont commencer à se regrouper ce soir pour attendre ces résultats, notamment dans les bars de la capitale américaine.
Oui, et c'est le cas effectivement où je me trouve. Regardez, ça y est, ça commence à se remplir ici. On sent une petite effervescence qui commence à monter. Les Américains se passionnent pour cette élection, peut-être comme jamais. On l'a vu notamment sur les audiences télé, toutes les émissions consacrées à ces élections ont fait un carton. Allez, on va aller voir l'un de ces électeurs justement. Il s'appelle Adam. Alors lui, il n'a pas encore voté. Il vote en Virginie, qui est l'état juste à côté de Washington. Il va y aller tout à l'heure. Les bureaux de vote ferment à 8h, heure locale là-bas, 20h. Adam, hi. What is important for you for this
vote
today?
That you will do pour vous, soon pour in ce Virginia. Vote, que vous allez... vous allez en Virginie. Oui, le plus important pour moi, c'est... d'abord, l'autonomie. Je crois que l'état des choses est très difficile et au Congrès, il faut qu'ils s'occupent sérieusement des problèmes de l'économie et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et peut-être que les Républicains pourraient mieux s'occuper de l'économie, vous ne le croyez pas, vous? Non, moi je crois qu'il est naturel de vouloir modifier ce que l'on a, le pouvoir qui est en place, et c'est pour ça qu'il y a une tendance à un retour des républicains, ou c'est ce que l'on croit, mais leur réussite n'a pas été très évidente de par le passé. Ils ont des politiques fiscales peu responsables, et c'est pour ça que je crois qu'il faut laisser le Parti démocrate continuer son travail. Il est plus en phase avec les gens et avec ce que les Américains veulent. Est-ce que vous pensez que Biden a fait un bon travail jusqu'à présent? On peut poser la question. Et je crois qu'il a vraiment essayé, il a fait son maximum pour rattraper toutes les erreurs de Trump. Et il s'est bien débrouillé pour rattraper tout cela. Le pays en est à un point où cela devrait pouvoir marcher. On n'est pas aussi mal qu'il y a deux ans. Et ça va prendre du temps à se relever. Donc, il a tout de même fait un bon travail. Et vous croyez qu'il faut qu'il se représente dans deux ans? Parce que c'est une discussion, ça. Je dirais que malheureusement, il n'y a personne d'autre pour le moment qui pourrait reprendre le rôle. Et c'est difficile de le dire pour le moment. Je le souhaiterais parce qu'il y a un effet continuité qui est valable et que le pays continue à aller dans un certain sens sans faire des revirements dans deux ans. Donc oui, s'il se représente, ce n'est pas si mal. Mais vous ne croyez pas que son âge est un problème? Vous êtes jeune, vous pensez pouvoir être représenté par quelqu'un d'aussi âgé? Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? Oui, c'est une bonne question, mais bien sûr, oui, c'est un problème. Il y a un grand décalage entre ce qu'est Biden, ce qu'il pense, et le reste du pays, et ce que veut le pays, parce qu'il y a une différence d'âge, c'est certain. Mais comme on n'a pas d'autre choix, on est obligé de choisir le moindre mal. Et vu ce qui se présente de l'autre côté, franchement, il vaut mieux en rester avec Biden, qui représente plus pour nous. Alors on fait avec ce que l'on a. Et il a une bonne équipe par rapport à Trump qui ne l'avait pas. L'équipe de Biden sera toujours meilleure qu'une équipe républicaine. Donc ce n'est pas que lui, c'est aussi son équipe.
Merci d'avoir été avec nous. Plutôt des sympathisants démocrates qui attendent ces résultats donc et qui pensent déjà à la suite et à la suite du mandat de Joe Biden et qui s'interrogent sur sa capacité à se représenter.
Antoine Delard, en direct, correspondant de BFM TV à Washington, au cœur de cette nuit américaine que vous allez passer en direct avec nous sur BFM TV, ou l'inverse. C'est-à-dire que nous allons la passer avec vous, enfin oui. Bref. Une chose, on parlait de ce duel Biden-Trump qui commence à se dessiner ou qui émerge à la faveur de ces élections de mi-mandat. Résultat intéressant sur la popularité de Donald Trump ce soir. Ce soir, sondage de CNN qui explique que Trump est encore plus impopulaire que Biden. C'est-à-dire que Trump, globalement, les électeurs, 37% des électeurs, Grégory Phillips, ont une opinion positive de Donald Trump, c'est plus bas encore que la popularité de Joe Biden.
Biden est à 40, je crois, absolument. De popularité.
C'est un peu au niveau où il était quand il a quitté son...
Ouais.
Mais, plus haut.
Donc, Hélène Kuntz, pardon, mais il y a un chemin, un sacré chemin à faire pour Donald Trump pour s'imposer comme le candidat républicain à la présidentielle de 2024, parce qu'il aura sans doute des concurrents, évidemment, qui aura une primaire, et s'imposer ensuite comme président en 2024.
Oui, mais il me semble que, pardonnez-moi, il n'a pas réellement parti là. Parce qu'il n'a pas fait ce que les autres présidents américains ont fait. Tout à l'heure, vous montrez le couple Melania-Donald Trump.
Oui.
Ils sont pas venus dans l'investiture de Joe Biden. C'est vraiment la première fois qu'on a vu ça.
Oui, c'est vrai.
Par contre, pour ne pas faire l'ombre à ce nouveau président, il n'a pas su faire. Donc, quand vous dites que Joe Biden n'a pas réussi à rassembler, il n'y avait pas moyen. Alors que l'autre...
Ah, je ne dis pas que c'est de sa faute, mais...
Oui, oui, mais l'autre n'a pas pu, parce que Trump était là en permanence. Même s'il est clairement nuisible, pas aimé, etc.
Il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que près de 70% des Américains pensent aujourd'hui que l'Amérique va dans la mauvaise direction. Que ça soit à cause de la tension politique, à cause de l'inflation, à cause des risques, des conséquences de la guerre en Ukraine, de l'immigration, qui est considérable. Au mois de septembre et au mois d'octobre, il y a eu plus de 200 000 migrants arrivant au Texas, 200 000 multipliés par 12, ça fait des chiffres considérables.
Attendez, je vais vous faire la multiplication, elle est très simple. Les chiffres officiels pour cette année, c'est 2,5 millions de migrants arrivés aux États-Unis.
Exactement.
Mais, chiffre donné par Donald Trump, 10 millions.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire. C'est que le chiffre officiel est de 2,5 millions, et de 2,5 millions, Trump dit fake news, 10 millions.
Mais même le chiffre officiel est déjà effrayant. Pour les Américains qui habitent à la frontière, 2 millions qui arrivent tous les ans, c'est considérable.
Alors,
c'est vrai que l'Amérique a toujours été un pays d'accueil, mais on comprend quand même l'inquiétude que cela suscite. Donc le chiffre à retenir, c'est 70% des Américains considèrent que leur pays aujourd'hui, toute opinion politique confondue, va dans la mauvaise direction.
L'inquiétude, c'est qu'il n'y a pas assez parce qu'il n'y a personne pour travailler dans les champs.
Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, je pense que, en insistant sur l'immigration, l'inflation et le coût de la vie, le Parti républicain a eu raison. Parce que le problème se pose, clairement.
Maintenant, c'est
exactement, l'immigration n'est pas en tête parce que c'est un pays qui est en pleine croissance économique, c'est un pays qui va bien, qui a un problème, justement, comme la France, comme l'Europe, comme de postes à pourvoir, et que les entreprises américaines n'attendent que ça. Il y a ces 2 millions de personnes qui sont arrivées là et qui vont être absorbées immédiatement par le marché du travail. Immédiatement, je vais vous le dire.
Quand vous allez à la frontière sur la border, c'est quand même un sujet. Tout le monde vous parle.
Mais de toute façon, vous avez raison, ça reste effectivement un problème dans les États du Sud. Et notamment, vous savez ce que font les gouverneurs républicains.
Ils mettent les
migrants dans des bus et ils les envoient dans les États du Nord pour leur dire voilà, vous les bonnes âmes.
Dans les États démocrates.
Ce que je voulais quand même expliquer à nos téléspectateurs.
Dans des avions. Exactement.
Ouais. Ce que je voulais que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est que le saut pour Donald Trump, s'il veut reconquérir la Maison-Blanche, est énorme. Je rappelle qu'il a été battu de 7 millions de voix. Alors, il peut dire effectivement que c'est le candidat républicain ou le candidat qui a rassemblé le plus de voix en étant second, ça c'est sûr. Mais 7 millions de voix, plus ces millions d'Américains qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Mmh. Donc, c'est en cela que je disais tout à l'heure qu'il est une bénédiction d'une part pour le Parti républicain, mais aussi sa malédiction. Cette espèce de focalisation sur lui, le fait qu'il kidnappe d'une certaine manière et la conversation, et les thèmes, et les candidats, et le Parti républicain lui-même, alors qu'en fait, le saut à faire pour revenir à la Maison-Blanche est absolument gigantesque, et bien la malédiction.
Grégory, est-ce qu'on peut s'arrêter quand même une seconde sur ce dont parlait Ulysse à l'instant, sur l'immigration, qui a été un des thèmes effectivement dominants de cette campagne électorale, avec des images. Et on peut faire le parallèle entre ce qui est en train de se passer ce soir même en Europe, entre l'Italie et la France. Oui. L'Italie qui dit... écoutez, l'Ocean Viking où il y a 234 migrants à bord, merci à la France d'accueillir le bateau, alors que la France n'avait absolument pas l'intention d'accueillir ce bateau, en tout cas pas officiellement, et ce soir le ministère de l'Intérieur dit attendez, c'est inacceptable ce qu'est en train de faire l'Italie de nous envoyer ce bateau comme ça. On verra ce qui va se passer pour ces 234 migrants, mais on a cette image-là aujourd'hui en Europe, et on a effectivement l'image de ces gouverneurs républicains aux États-Unis qui ont pris des migrants à la frontière, venus du Mexique, etc., qui les ont mis dans des bus, dans des avions, et qui les ont envoyés dans des États démocrates plus au nord, en disant, bah, écoutez, débrouillez-vous avec eux.
Et puis on a aussi ce slogan éculé, Build the Wall, qui date d'il y a 6 ans maintenant. Peut-être qu'on posera la question à Philippe Corbet, je ne sais pas si on le dit encore dans les meetings aujourd'hui.
C'est la candidate gouverneur d'Arizona, Carrie Lake, elle a repris, elle a promis de continuer le mur, de le terminer.
Mais Biden aussi a fait en sorte que le mur se poursuive, que la construction du mur se poursuive parce qu'il y a des trous dans ce mur, et Biden aussi a dit, faut
c'est bipartisan quand même.
Que la réalité, du bilan de Trump, c'est qu'il a construit cette barrière ou ce mur sur quelques portions de dizaines de miles. Enfin, ce mur n'existe pas, alors que c'était vraiment l'argument central de sa campagne. Et quand il existe, de toute façon, les migrants sans papier arrivent quand même à passer. Donc, c'est quand même, certes, une pièce maîtresse dans son discours, mais un échec pour lui si on regarde les choses objectivement.
Il y a des soucis avec ce fameux mur, c'est-à-dire il y a une grande partie des terres qui sont des terres privées. Il faut négocier avec les propriétaires. Il y a une grande partie qui s'appelle le Rio Grande et d'autres fleuves. Enfin, même Obama était soucieux de ce mur qui est pour partie électrifié. Pardonnez-moi, on ramasse les cortines le matin pour les parties qui sont construites. Donc, c'est une image, le mur.
Et c'est pour ça que les électeurs, d'ailleurs, de Donald Trump, même s'il n'est pas du tout allé au bout du mur, ne lui en veulent pas. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on parle avec eux, ils continuent de dire qu'il a tout essayé. Et qu'il a été très volontariste, et qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Ouais. Et que c'est pareil, d'ailleurs, dans son combat contre la Chine. Et qu'ils ne lui tiennent pas rigueur. Enfin, ils ne sont pas déçus, les électeurs de Donald Trump, en se disant il a fait moins bien que ce qu'il nous avait dit. Il n'y a pas ce regret-là chez eux. Et donc, ce qui permet aujourd'hui à certains, comme Ron DeSantis, qui est extrêmement ferme, par exemple, en Floride, lui aussi, sur l'immigration, de continuer à promettre beaucoup plus, alors que pourtant, dans les faits, Donald Trump n'a pas du tout tenu ses promesses. Alors, ni Joe Biden, qui devait légaliser 11 millions d'immigrés illégaux, etc. Là aussi, il n'a rien fait de ce qu'il avait dit.
Ulysse, vous avez 30 secondes.
Oui, vous vous souvenez qu'hier, on avait une rumeur du New York Post, le quotidien de New York, annonçant que Donald Trump allait... révéler sa candidature. Et ce soir, le New York Times, avec l'une de ses plus grandes plumes, Maggie Haberman, qui est une grande spécialiste de la politique américaine, elle dit que selon les conseillers de Trump, eh bien, celui-ci voulait absolument annoncer sa candidature.
Dès hier soir.
Qu'il est de plus en plus colérique et qu'il ne supporte pas l'idée de ne pas être président. Et hier soir et ce soir, il a fallu que les leaders du parti, que sa famille donc peut-être Mélania, et que ses conseillers le dissuadent d'annoncer sa candidature. C'est dire un petit peu l'état d'esprit de Donald aujourd'hui.
Voilà un des sujets qui sera abordé évidemment dans un instant. Cette nuit américaine se poursuit sur BFM TV. On attend les premiers résultats de ces votes de mi-mandat aux États-Unis. On reste avec vous en direct ce soir sur BFM TV avec dans un instant Ashley Chevalier et Rachid Embarki pour vous accompagner et toute l'équipe que je remercie. À dans un instant.
Ce soir, retrouvez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec Barcelone-PSG à 21h sur RMC Sport.
Plus que 90 minutes avant les qualifs. C'est si court et en même temps c'est si long.
Ne manquez pas l'UEFA Champions League sur RMC Sport à partir de 9€ par mois avec la fibre de SFR.
J'ai oublié le temps additionnel, les prolongations et peut-être même des tirs au but. Mon cardio va lâcher là.
Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition jusqu'au 10 juin avec engagement de 12 mois. Fibre de SFR sous réserve d'éligibilité.